Nous sommes en compagnie d'Alain Labat, chargé de mission d'inspection de Chinois à l'éducation nationale et président de la Fédération nationale des amitiés franco-chinoises. Notre sujet du jour est Sun Yat-sen, fondateur du Kuomintang et père de la révolution chinoise, comme on aime à le dire aujourd'hui. Alors pour commencer, dans quel contexte historique débute la vie de Sun Yat-sen en 1866, seulement 6 ans après le sac du palais d'été en 1860 et la fin de la seconde guerre de l'opium?
C'est un contexte qu'on peut qualifier, même si c'est un terme habituel de nos jours, de crise. C'est un contexte de crise profonde. Sun Yat-sen est né, comme vous venez de le rappeler, donc en 1866, sous le règne d'un empereur qui s'appelle Tang Zhe, qui n'a pas laissé un nom particulier dans l'histoire de Chine, sinon correspondre à ce que les historiens de ce pays appellent une restauration de l'ordre impérial. Pourquoi restauration ? Parce que cet ordre impérial commence à être sérieusement menacé. Menacé à la fois de l'intérieur, par des phénomènes récurrents, sur lesquels on reviendra peut-être, et puis aussi par un phénomène tout à fait nouveau qui correspond au début donc de la pénétration forcée ou de l'agression occidentale donc en direction de la Chine. Et l'essentiel de sa vie, l'essentiel de sa carrière politique et de sa réflexion sera déterminé donc par ce contexte de crise, crise intérieure, sociale, profonde, et aussi crise extérieure, jusqu'à remettre donc la place de la Chine dans la représentation du monde qu'elle avait en cause.
Oui, la représentation au centre, bien sûr.
Bien sûr.
L'empire du milieu est au milieu. Sun Yat-sen est un fils de paysan. Quelle sorte d'enfance a-t-il eu ?
Il a eu quelques années d'une enfance tout à fait traditionnelle. Il est né dans un petit village de la province du Guangdong, entre Hong Kong et Macao, qui s'appelait à l'époque donc Cuiheng, qui aujourd'hui donc s'appelle Chongshan, c'est son prénom en chinois. C'est un petit village donc qu'il a vu naître dans une famille de paysans moyennement riches, ce qui lui a permis d'avoir accès donc à l'école privée, l'école clanique de son village, et de s'initier à quelques rudiments de morale, bien sûr confucianiste, ça va de soi, quelques éléments bien sûr d'écriture, donc l'apprentissage des caractères traditionnels, et puis aussi à des rudiments de calcul. Il a surtout été marqué par le caractère donc un peu immémorial de cette vie villageoise chinoise, donc marquée par une très forte pression fiscale donc sur les paysans, et aussi par un certain nombre de traditions bon qui sont connues chez nous, le bandage des pieds, les mariages arrangés, qui participent donc de ce qu'on a appelé de façon peut-être un peu caricaturale mais pas complètement cet empire immobile qui prévalait au fil des siècles dans son ordre social traditionnel. Mais pour lui, cette enfance traditionnelle a pris fin très vite pour deux raisons. Parce que il est né dans une région donc qui a fourni les premiers gros contingents à cette immigration chinoise vers les États-Unis d'une part et l'Asie du Sud-Est d'autre part, à une époque où elle était encore quasiment illégale, parce que partir de la Chine, c'était vu par les autorités impériales comme une véritable trahison. Or, donc, deux de ses oncles avaient quitté ce village de Cuiheng pour aller participer à cette fameuse ruée vers l'or aux États-Unis. Et surtout, ça sera l'un des éléments décisifs de son destin, son frère aîné était parti donc quelques années plus tôt dans l'île de Hawaï pour essayer de tenter sa chance.
Oui, et c'est donc ça finalement qui déterminera pour beaucoup son orientation future, c'est de s'être frotté à une autre civilisation et puis à une influence américaine.
Exactement. Son frère aîné donc l'a fait venir à Honolulu, et à une époque donc où Hawaï n'était pas encore donc dominé par les Américains, c'est un territoire donc qui essayait de lutter précisément contre cette annexion américaine. Et là, il a découvert très vite un univers extraordinairement différent de celui qui avait vu ses premières années de jeunesse, notamment sur le plan intellectuel, puisque son frère l'a inscrit dans deux écoles missionnaires, donc avec au programme bien sûr l'anglais, la Bible et des rudiments de sciences occidentales, c'est-à-dire une espèce de déculturation, même compte tenu de son jeune âge, extrêmement profonde, qui a provoqué chez lui une sorte de petit choc intellectuel déjà, la confrontation de deux univers profondément différents. Il a été aussi témoin, donc, dans ses années de jeunesse, de manifestations de la population d'Hawaï contre les prétentions américaines. Et il a été aussi en contact avec ces fameux occidentaux qui commençaient à représenter donc ce qui était perçu comme une véritable menace pour la Chine de son temps.
Alors en 1882, il rentre en Chine, ou en tout cas il va à Hong Kong pour faire des études de médecine.
Il rentre en Chine parce que son frère s'est aperçu, donc, ses professeurs, qui étaient également des missionnaires, donc protestants, avaient grande influence sur lui, ce qui n'est pas forcément condamnable en soi, mais qu'il commençait à avoir des tendances prononcées à se convertir au protestantisme, ce qui était considéré à l'époque par les Chinois comme une véritable trahison culturelle, une sorte de déni de la sinité en tant que telle. Et donc, dès que son frère aîné a appris qu'il avait ce projet de conversion, il l'a immédiatement renvoyé vers son village natal. À son grand désarroi qu'il a manifesté dans un épisode qui est resté célèbre, qu'il raconte en détail dans ses mémoires, puisqu'il a décidé, pour montrer son mécontentement, à la fois de cette décision et de cette société traditionnelle rurale chinoise, qu'il l'accueillait de nouveau, il a décidé, avec un autre garnement de son espèce, de saccager le temple villageois, ce qui lui a valu donc ce bannissement vers Hong Kong, puisqu'il a été mis au banc de son village. Et là, il s'est décidé de poursuivre, sur le plan intellectuel et professionnel, ses premiers projets formulés pour la première fois au Honolulu, c'est-à-dire de devenir un savant. Il a choisi la médecine et il a entrepris des études de médecine de nouveau dans des institutions missionnaires qu'il a poursuivies jusqu'à leur terme. Et c'est aussi pour lui une époque où il a beaucoup lu, bien sûr. Il maîtrisait l'anglais. Il était dans une colonie britannique depuis quelques années, puisque l'un des résultats de la première guerre de l'opium a été la création de Hong Kong. Et il a aussi pris contact avec les triades, c'est-à-dire l'espèce locale des sociétés secrètes, la forme traditionnelle de dissidence dans la Chine classique. Et là, on voit naître des données qui vont être un petit peu constantes dans les décennies à venir, c'est-à-dire une volonté marquée de réfléchir aux problèmes de la Chine et surtout d'essayer de trouver des solutions.
Et ce bannissement était sa chance en quelque sorte. Alors pendant ce temps-là, pendant que Sun Yat-sen réfléchit, fait son éducation un peu à l'occidental, il faut bien le dire, le pays tente de se moderniser malgré qu'il ait encore son empereur.
Le pays tente de se moderniser, c'est quelque chose qui est très difficile parce que est-ce que modernisation veut dire occidentalisation? Il faut bien comprendre que ces deux guerres de l'opium, qui sont un phénomène assez connu quand même chez nous, ont constitué un traumatisme profond pour cet empire chinois. La Chine n'a jamais été envahie par des étrangers, sinon deux fois dans son histoire. Au XIIIe siècle par les Mongols et au XVIIe siècle par les Mandchous qui, à l'époque où nous évoquons, gouvernent la Chine. Et à chaque fois, ces deux seules fois où la Chine a eu affaire à des envahisseurs étrangers, il s'est passé un phénomène que les historiens chinois appellent la sinisation, c'est-à-dire que la Chine a absorbé ses vainqueurs. Les Mongols, très vite, se sont mis à gouverner cet empire comme des empereurs chinois. La même chose s'est produite avec les empereurs Mandchous. Qui ont été de grands empereurs au sens chinois du terme. C'est-à-dire qu'ils ont adopté la langue, les mœurs, la vision du monde, etc., du pays conquis. Or, avec ces guerres de l'opium, la Chine se rend compte très doucement et très douloureusement que, pour la première fois dans son histoire, elle a affaire à des envahisseurs qui sont effectivement plus puissants qu'elle, mais qui ne sont pas disposés à se laisser siniser. Et donc, tous les Chinois qui pensent à l'époque vont se poser la question, quel est le secret de la puissance et de la richesse de l'Occident? C'est une problématique qui court toute la réflexion philosophique, c'est-à-dire, puisqu'on est en Chine politique, chinoise, des guerres de l'opium jusqu'à nos jours. Et c'est dans cette réflexion que va s'inscrire la démarche de Sun Yat-sen.
Et à quoi aboutit cette réflexion en dehors de Sun Yat-sen justement? Comment les Chinois ont-ils appréhendé notre puissance de l'époque?
Alors, ils se sont trouvés face à un problème de défense nationale. Dans un premier temps, ils ont eu affaire à l'Occident, qui n'est pas n'importe quel Occident, à l'Occident de la révolution industrielle. Cette révolution industrielle, c'est l'événement majeur de l'époque, pour des siècles à venir. Et donc, ils se sont aperçus que ces pays, dont ils ignoraient à peu près tout, étaient militairement et de façon éclatante plus forts qu'eux. Donc la question a été de savoir, est-ce qu'on peut résister à ces étrangers, donc qu'on qualifie dans la tradition chinoise de barbares? Faut-il les imiter? puisqu'on n'a pas la force de les repousser, faut-il passer des compromis avec eux ou pas ? Donc il y a eu un certain nombre de grands lettrés de la fin du XIXe siècle, philosophes, qui ont essayé de dire il faut réformer impérativement cet empire chinois. En 1898, il y a eu ce que l'on appelle dans l'histoire chinoise les 100 jours, c'est-à-dire que l'un de ces grands lettrés, Kang Youwei, philosophe par ailleurs, a présenté donc un mémoire au trône avec des propositions de modernisation qui ne remettaient pas en cause le pouvoir impérial. Et l'empereur a confié donc le pouvoir à ces philosophes réformateurs qui ont tenu 100 jours. Ensuite, les milieux conservateurs donc ont repris la main et ces réformateurs ont été contraints à l'exil au Japon où Sun Yat-sen les rencontrera donc très vite, quelques années plus tard. Donc c'est une tentative avortée en réalité parce que en même temps que ce péril extérieur se manifeste, il y a aussi en Chine un péril intérieur qui est né avec dans les derniers quarts du 19e siècle des révoltes paysannes qui sont un phénomène récurrent dans l'histoire de Chine mais qui là prennent une dimension absolument spectaculaire, en particulier l'insurrection des Taiping qui dans les années 1850 manque de renverser l'empire chinois. Ces rebelles Taiping conquièrent une partie du sud de la Chine et l'empire chinois aura fort à faire donc pour les réprimer. Et on dit, hein, c'est un ordre d'idée, mais que la répression donc de cette révolte Taiping, qui constitue la plus grande révolte paysanne de l'histoire du monde, a fait autant de morts que la population française de l'époque. Donc péril intérieur, péril extérieur, et face à ces deux menaces, donc une difficulté, notamment pour ce qui est de la menace extérieure, simplement de conceptualiser sa nature.
C'est impressionnant. Donc, pendant que la dynastie des Qing s'effrite, la Chine vit ses heures les plus sombres. Et Sun Yat-sen, qui savait déjà ce qu'il voulait, avait créé en 1894 une association républicaine qui porte un nom prédestiné, Société pour la Renaissance de la Chine. C'est un moment important, ça.
Oui, c'est un moment important dans son parcours qui en préfigure bien d'autres. Simplement, à l'issue de ses études de médecine, donc, et de ses contacts avec les sociétés secrètes de Hong Kong et de la Chine méridionale, il a décidé donc de se lancer dans l'action politique. L'action politique, quand on est en rupture de banc dans la Chine traditionnelle, donc n'a d'autre issue que ces formes traditionnelles de dissidence qu'on appelle les sociétés secrètes. Il est retourné donc dans les dernières années du siècle à Hawaï et avec des gens présentant le même profil que lui, c'est-à-dire des Chinois d'outre-mer, souvent protestants, donc quelque peu pétris de culture occidentale. Il a fondé quelque chose qui est une société secrète, donc qu'il appelait le Xin Chong Hui, le mouvement pour la régénération de la Chine, dont le but précis dans son manifeste est d'étudier la richesse et la puissance. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait la richesse et la puissance de l'Occident. Quand on aura compris ça, pensait-il, on arrivera peut-être à trouver les mesures qui nous permettront de répondre à ce défi.
Il n'avait pas complètement tort.
Pas du tout. La preuve l'a démontré.
Voilà. Et est-ce que c'est à ce moment-là qu'il élabore ces fameux trois principes ?
Oh, pas encore, hein, parce que à la suite donc de cette fondation, il est rentré à Hong Kong pour ouvrir une branche hongkongaise de ce petit mouvement, et ensuite il s'est aperçu que pour mener à bien ses complots avec les sociétés secrètes, il lui fallait des partisans et il lui fallait aussi des fonds. Et donc il va entreprendre le premier d'une sorte de tour du monde qui l'amène en Asie du Sud-Est, aux États-Unis, ultérieurement en Europe, tour du monde qu'il renouvellera quasiment trois fois, ce qui est tout à fait inédit pour un Chinois de son temps, et qui vont lui donner une vision du monde, précisément, que quasiment aucun Chinois n'a encore, puisque cet empire, depuis 1830, donc pratique une politique de fermeture qui est à la fois culturelle et économique, et qui a été seulement battue en brèche par les traités qui ont mis fin aux guerres de l'opium et qui ont provoqué ce qu'on appelle le début de l'ouverture forcée de la Chine. Donc la singularité de Sun Yat-sen, c'est que c'est certainement le premier Chinois qui, face à cette problématique commune à tous ceux qui réfléchissent au destin de leur pays à l'époque, lui donnera une vision qu'il est le seul à avoir.
Alors en 1895, il est contraint de s'exiler suite à un coup d'État raté. Et finalement, on a l'impression que c'est un professionnel du complot.
Alors c'est certainement non. Un coup d'État, le terme est peut-être un petit peu excessif, mais donc il a été repéré, bien entendu, par la police impériale, donc manchoue. Et sa tête, donc, naturellement, est mise à prix, hein, puisqu'on sait désormais qu'il est à l'initiative, donc, de ces complots qui agitent la province méridionale du Guangdong depuis un certain nombre d'années. Et là, il va acquérir, grâce à ça, une stature mondiale. Il va être le premier opposant, le premier dissident identifié internationalement, donc, premier opposant à la dynastie manchoue. Puisque, donc, à l'occasion d'un de ses périples à travers le monde occidental, en 1896, il a été l'objet d'un kidnapping à Londres. Les agents secrets chinois, donc, l'ont kidnappé, l'ont séquestré dans la légation de Chine, dans la capitale britannique. Il n'a dû son salut qu'à l'intervention, donc, de son ancien professeur de médecine à Hong Kong, le docteur Cantley, qui, oui, ne le voyant pas venir au rendez-vous, donc a alerté à la fois les médias et la police. Quelque chose donc de très moderne, ce qui lui a valu d'abord la vie sauve, ce qui est bien pour lui, et d'autre part donc une notoriété en Occident, au titre donc d'opposant farouche à la dynastie manchoue. Et bien entendu, la prime mise sur sa tête a considérablement augmenté.
Quel a été son rôle, ou en tout cas son avis sur la révolte des boxeurs en 1900?
Il n'a pas écrit des choses particulières là-dessus. Hein. Cette révolte des boxeurs s'inscrit dans une lignée donc de défaites qu'a subi la Chine devant les puissances occidentales, et s'inscrit, c'est un épisode en réalité, d'un phénomène beaucoup plus vaste qu'on appelle le dépecement de la Chine. C'est-à-dire que, prenant acte de la faiblesse considérable de ce pays, de son retard aussi scientifique, technologique et économique, donc ce qu'on appelait à l'époque les puissances, hein, c'est-à-dire les pays occidentaux aux prétentions coloniales et leur émule asiatique, le Japon, se sont lancés donc dans ce qu'ils envisageaient simplement comme un partage de la Chine, à l'instar de ce qui s'était passé en Afrique, au Moyen-Orient, en Inde et en Asie du Sud-Est.
Alors on saute 12 années, de 1900 à 1912. Le 1er janvier, Sun Yat-sen se fait élire à Nankin, bon, pas pour longtemps d'ailleurs, mais dans quelles circonstances cela a-t-il été possible, et comment la dynastie manchoue s'est effondrée comme ça?
Comme tous les grands événements, c'est quelque chose qui était totalement imprévisible, puisque Sun Yat-sen donc avait à ce moment-là une quinzaine d'années de complot, autant d'échecs pour lui et ses partisans. Et au mois d'octobre donc 1910, une petite garnison, donc des troupes de la partie moderne de l'armée chinoise, dans la ville qu'on appelle aujourd'hui Wuhan, se soulève, prend le pouvoir dans la ville et proclame un gouvernement républicain. À l'époque, donc, Sun Yat-sen est aux États-Unis où il fait des conférences et les journalistes tout de suite l'interrogent pour lui demander son sentiment sur ce soulèvement de Wuchang, comme on appelle cette ville à l'époque. Pour lui, il répond c'est anecdotique. Il est quand même assez prudent pour revenir immédiatement en Chine. Et cet appel que lance la garnison révoltée de Wuchang aux autres provinces de déclarer leur indépendance vis-à-vis du pouvoir central de Pékin reçoit un écho tout à fait inattendu. Il faut dire que le ver était dans le fruit depuis longtemps. Et cette étincelle a été allumée en réalité par ce qu'on appelle l'affaire des chemins de fer du Sichuan, puisque dans cette province donc centrale de la Chine, quelques semaines avant le déclenchement donc de cette insurrection, il y a eu une intense agitation donc menée par des commerçants chinois qui avaient financé donc une ligne de chemin de fer que les autorités impériales voulaient nationaliser, ce qui a donné lieu donc à des manifestations et à une répression assez féroce de ces manifestations. Donc c'est la conjonction donc de cet ensemble d'événements qui a fait que tout d'un coup cet appel donc à l'insurrection a reçu un écho donc tout à fait nouveau. Sun Yat-sen donc est rentré immédiatement et au titre donc de son statut d'opposant principal à la dynastie manchoue, s'est trouvé donc élu le 1er janvier 1912 président de la première république chinoise, un concept tout à fait nouveau par ailleurs dans l'univers politique chinois.
qui n'a pas duré très longtemps, puisqu'il a duré un mois.
Trois semaines.
Oui, trois semaines, ce qui est quand même pas grand-chose. Sur quelle base fonde-t-il en août 1912, le Kuomintang ?
Alors, il s'est aperçu donc que les événements se sont accélérés de façon très importante, et que ces structures, il a fondé donc ce Xinchonghui, ensuite le Tongmenghui, hein, qui en était la suite. Donc, ces structures qui s'apparentaient aux sociétés secrètes traditionnelles ne sont plus adaptées à la nouvelle réalité politique, institutionnelle et internationale de la Chine. Et donc, il fait évoluer son mouvement, qu'il baptise Kuomintang, Parti Nationaliste, qui est la première forme politique chinoise de ce que nous appelons, nous, un parti politique. Une décennie plus tard, il y en aura un deuxième, et le clash entre les deux fondera la Chine qu'on appelle contemporaine, puisque en juillet 1921, ce sera un tout petit parti communiste chinois qui verra le jour dans la concession française de Shanghai.
Quelles étaient les influences intellectuelles et politiques de Sun Yat-sen ?
Alors, elles sont atypiques. Hein. Il a eu une instruction, une culture chinoise assez rudimentaire, puisque, à part l'école villageoise, donc l'essentiel de sa formation s'est faite à Honolulu et à Hawaï. C'est quelqu'un qui a été profondément influencé par ses lectures en anglais. Lorsqu'il a été kidnappé à Londres, il est resté donc quasiment une année pour fréquenter donc le British Museum, où il a lu, et il a été parmi les tout premiers Chinois à le faire, les grands philosophes qui comptaient, les grands économistes britanniques, essentiellement de la fin du 19e, Stuart Mill, etc. Il a lu Marx, il a lu Montesquieu, il a lu aussi des auteurs américains, et il a recherché dans tous ces auteurs ce qui pouvait expliquer à la fois la force de l'Occident et la manière dont la Chine pouvait éventuellement y résister. Donc l'essentiel de l'influence qu'il a subie, ce sont des influences de nature occidentale.
Alors Sun Yat-sen voulait faire de la Chine une grande puissance. Il serait content aujourd'hui devant la fantastique ascension de la Chine ?
Là, il verrait que son rêve donc commence à être réalisé de façon assez spectaculaire. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, souvent, quand on visite notamment, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé. L'an dernier, j'ai souhaité visiter donc ce que la Chine est en train de construire ici ou là, qu'ils appellent des villes écologiques. Bon, ce qui est un petit peu surprenant en soi. Et dans la plus grande d'entre elles, donc qui se trouve au nord-est de la Chine, Cao Weitian, il y a donc dans l'exposition qui présente le futur projet de cette ville, donc d'économie recyclable, zéro carbone, etc., quelque chose, un chantier qui est le plus grand chantier de Chine actuellement, dont on ne parle guère ici, c'est curieusement. Il y a donc toute une partie de cette exposition qui présentant le projet consacré à Sun Yat-sen, parce que ça reprend une partie de ses projets. Il avait réalisé dans les années 20 un projet de développement de la Chine, qui est quelque chose qui apparaît aujourd'hui visionnaire.
Alors si l'on rappelle les trois principes énoncés par Sun Yat-sen en 1912, le nationalisme, la démocratie et le bien-être du peuple. La démocratie, on n'y est pas encore. Le bien-être du peuple, pas tout à fait. Mais le nationalisme, c'est bien parti.
Oui, alors il faut resituer aussi les choses dans le contexte, hein, parce que depuis le début du XXe siècle, quand même, les choses ont considérablement évolué. Simplement, ce qui est très frappant, donc, c'est que ces trois concepts que vous venez de citer, ce sont des concepts d'origine étrangère, il ne faut pas l'oublier, y compris celui de nationalisme, que Sun Yat-sen a essayé laborieusement d'introduire en Chine et d'imposer, parce que pour lui, c'était précisément la réponse que devait apporter la Chine au défi donc que lui posait l'Occident. Et on voit aujourd'hui que en matière de progrès dans la résolution de ce défi, elle a fait un chemin que même dans ses rêves les plus optimistes, sans doute Sun Yat-sen n'aurait jamais imaginé.
Est-ce que Sun Yat-sen peut être un modèle pour l'avenir de la Chine ?
Alors, il faut quand même... C'est une référence, c'est toujours une référence. D'abord, c'est une personnalité consensuelle qui est honorée donc aussi bien à Taipei, donc à Taïwan, qu'en Chine continentale et que dans la diaspora. On l'a vu notamment en cette année 2011-2012, donc on commémore dans le monde entier l'anniversaire de cette révolution républicaine. Et sa pensée est toujours la pensée officielle, hein, l'idéologie officielle du Kuomintang, qui gouverne toujours, plus que jamais, puisqu'il a remporté les dernières élections, Taïwan.
Alors en guise de conclusion, je voudrais citer une phrase extraite de son testament politique tout à fait visionnaire. « Pendant 40 ans, j'ai dépensé toutes mes forces à faire la révolution nationale, dont le but a été la liberté et l'égalité de la Chine. Ces 40 ans d'expérience m'ont profondément convaincu que pour arriver à ce but, il faut éveiller la masse, nous allier avec les peuples du monde qui nous traitent sur le pied d'égalité et lutter côte à côte avec eux. Voilà, c'était signé Sun Yat-sen. Alain Labat, merci. Une petite bibliographie peut-être pour terminer,
qui n'est pas très lourde. Il y a très peu de choses en français donc sur ce personnage, qui est avec Mao Tse-tung la figure essentielle de l'histoire de la Chine du XXe siècle. On peut simplement recommander donc la biographie que Marie-Claire Bergère lui a consacrée il y a quelques années, qui est le meilleur ouvrage et l'un des très rares consacrés en français donc à ce personnage essentiel.
Bon, et puis maintenant on peut lire énormément de choses en anglais par contre.
Alors, la bibliographie en anglais est innombrable,
bien entendu. Si on pratique l'anglais, tout va bien.